Mandrin. Première partie, chapitre 14. Sourire mêlé de larmes.
« Je ne suis pas mariée ?» répétait Nicole, toute tremblante d'émotion. « Mais alors, ce prêtre qui m'a uni à M. d'Hérigny, ce diacre et ce sous-diacre qui l'accompagnaient ?»«
Le prêtre, c'était moi !» affirmait Mandrin avec un joyeux sourire. « Quant à mes assistants, permettez-moi de vous les présenter. »
Mandrin frappa par deux fois dans ses mains. La porte s'entr'ouvrit, démasquant la face réjouie de Carnaval et le profil anguleux de Mi-Carême.
« Mon trésorier, mon secrétaire !» annonçait Mandrin en faisant signe d'avancer à ses deux compagnons, qui s'en vinrent saluer Nicole en grande cérémonie.
« Est-ce possible ?»
s'écriait la jeune fille au comble de la stupeur. Mais Mandrin lançait à ses deux acolytes.
Qui a célébré le mariage de Mademoiselle Nicole Malissé et de Monsieur Bourret d'Hérigny au château des Aigles ?
Carnaval et Mi-Carême s'inclinèrent avec une gravité comique devant leur chef. Puis, tout en le désignant du doigt, ils reprirent avec un ensemble parfait :
C'est vous, capitaine !
Nicole, retrouvant soudain toute sa gaieté, ne put réprimer un éclat de rire. Et Mandrin, ravi de la sentir à présent, tout à fait rassuré, révéla.
Au nom du sieur Bourret, j'ai fait mander à cet excellent curé de Saint-Estève que le mariage du fermier général était remis à huitaine. Alors, muni d'un message signé de ce vénérable ecclésiastique, et que j'avais d'ailleurs pris soin de fabriquer moi-même, je me suis donné pour son remplaçant. Vous voyez que c'était tout à fait simple.
Et je ne vous ai pas reconnu, s'exclamait Nicole.
Vous étiez tellement troublé, et puis j'avais pris soin de me camoufler avec le plus grand soin. J'ai la prétention, justifiée je crois, de savoir me transformer assez habilement, ce qui m'a permis de remplir entre-temps, avec non moins de succès, le rôle de l'escamoteur Alcofribas, et de vous amener ici sans encombre.
« Et ça, capitaine !» admirait Mi-Carême. C'est peut-être ce que vous avez accompli de plus extraordinaire dans toute votre existence.
En effet, accentuait Carnaval, être le même jour un escamoteur et un curé, cela tient à la fois du prodige et du miracle.
Repris par ses devoirs de chef, Mandrin demandait :
Avez-vous fait l'appel des hommes ?
Oui, capitaine.
Il ne manque personne ?
Si,
Thiennot, le berger.
Ah, diable !
Nous craignons fort qu'il n'ait été fait prisonnier.
Morbleu ! Envoyez tout de suite un de nos meilleurs limiers à sa recherche,
car je veux à tout prix savoir ce qu'il est devenu.
Puis, les traits crispés par une subite colère, il martela.
Au fait, je voudrais bien savoir aussi comment les gaillards auxquels j'avais confié la garde de pistolet ont laissé échapper ce coquin.
Capitaine, déclarait Mi-Carême. Ils en sont assez maris eux-mêmes.
Et que s'est-il donc passé ?
Ils viennent d'arriver ici, et ils m'ont raconté que pendant la nuit, qu'ils avaient passé à l'auberge de la dame Lopion, ils s'étaient laissés aller à boire un peu plus que de mesure.
Les gredins ! Je vais les faire pendre tous !
Louis, supplia Nicole, je vous demande leur grâce.
Leur grâce ?
Mais songez donc que par leur sottise ou leur lâcheté, je pouvais tomber, et vous pouviez rester entre les mains de cet infâme Bourré.
Puisqu'il n'en a rien été, reprenait Nicole, et que notre bonheur est désormais assuré, faites que ce beau jour, à son aurore, soit également illuminé par votre clémence et votre bonté.
Louis, vous ne pouvez pas me refuser la première faveur que je vous demande.
Nicole, s'écriait Mandrin, vous êtes la plus adorable des femmes.
« Alors, vous pardonnez ?
Vous me mettez à une rude épreuve.
Je vous en supplie. »«
Eh bien, soit, je pardonne. »
Dans un élan tout de gratitude et de tendresse, Nicole se jeta dans les bras de Mandrin,
qui la serra tendrement contre son cœur.
Discrètement, Mi-Carême et Carnaval se défilèrent par la porte demeurée entr'ouverte et s'empressèrent d'annoncer à leurs camarades que le capitaine, chose invraisemblable, consentait, grâce à l'intervention de sa fiancée, à passer l'éponge sur leur défaillance.
Mandrin, redevenu le plus passionné des amants, s'écriait « Ma bien-aimée, avant de regagner la Savoie, nous allons nous marier pour tout de bon, et devant un vrai curé cette fois.
Quand donc?
Aujourd'hui même.
Et où cela?
Dans la chapelle de ce château.
Ensuite, la nuit prochaine, nous franchirons la frontière
et nous rejoindrons mon château de Rochefort où, en attendant mieux, je vous ai fait préparer un appartement qui, je l'espère, ne vous fera pas trop regretter votre gentille chambre de beau jeu.
Ah, avec vous, s'écria la jeune fille, ne serais-je pas toujours la plus heureuse?
Nicole, avec une légère nuance d'inquiétude, Mandrin ajoutait,
vous n'êtes pas trop effrayée de partager mon existence aventureuse?
Je suis fière, au contraire, d'être la femme du grand justicier que les puissants du jour haïssent, mais que le peuple bénit.
Oh, je vous adore.
Et moi, Louis, je vous appartiens d'un tel amour que maintenant, j'en suis sûr, je ne pourrais pas vivre sans vous.
Comme s'il devinait la seule ombre au bonheur de Nicole, Mandrin reprit.
Tout à l'heure, vous me parliez de vos parents.
Oui.
Et vous m'avez un peu rassuré sur leur sort.
N'importe. Vous seriez contente de les revoir, n'est-ce pas?
Oh oui.
Ce vœu si naturel ne tardera pas à être exaucé. Et si monsieur et madame Malisset n'assistent pas à votre mariage, je vous promets que vous ne souffrirez pas longtemps de leur absence.
Ce qu'ils vont me gronder!
Attendez-vous de leur part à quelques criailleries, mais je me charge d'apaiser promptement leur colère.
Ne suis-je pas un peu sorcier?
Vous êtes surtout un grand cœur qui sait se faire aimer de tous ceux qui vraiment le connaissent.
Et Nicole, radieuse, sortit de l'aumônière qui complétait sa toilette de mariée la bague que Mandrin lui avait donnée.
« J'avais dû la cacher avec soin, fit-elle. Mais je l'ai toujours gardée devant moi.
Remettez-la pour toujours, à mon doigt.
Oui, pour toujours, fit Mandrin d'une voix grave et tendre.
Et Nicole, radieuse, tout en lui tendant la main, pour la première fois, lui offrit ses lèvres.
Tandis que Mandrin et Nicole échangeaient ces amoureux propos, Bourré d'Érigny, qui n'avait plus qu'une volonté, retrouver sa femme, et Pistolet, qui brûlait du désir de remporter sur son ennemi une victoire éclatante, se préparait à reprendre vigoureusement l'offensive. La veille au soir, l'exempt n'avait rien pu tirer de Thiénot, figé en un profond mutisme. Mais, en vertu de cet adage que la nuit porte conseil, il avait décidé de reprendre dès le lendemain son interrogatoire, en présence du fermier général, dans la salle où il avait fait enfermer Thiénot sous la garde de deux gendarmes.
Pistolet, après avoir un instant considéré sa prisonnière, que sa présence ne semblait nullement intimider, attaquait d'un ton menaçant et d'autant plus inquiétant qu'il était sans colère.
« Tout d'abord, réglons nos comptes personnels. »
Thiénot eut un imperceptible haussement d'épaule. Mais pas une parole ne s'échappa de sa bouche. Sous le regard ulcéré de Bourré d'Érigny, qui tourmentait nerveusement la garde de son épée, Trollon continuait.
« Vous avez agi envers moi avec une perfidie toute féminine. Et par votre faute, j'ai failli être rôti vivant. Cela me suffirait amplement pour vous livrer au bourreau. On a pendu haut et court, et même brûlé vive, des criminels qui en avaient fait moins que vous. Mais je ne suis pas homme à poursuivre une vengeance personnelle au détriment de mon devoir. Ce devoir, vous le savez, est d'arrêter Mandrin. Voilà pourquoi, avant de vous livrer à la justice, je viens vous répéter les mêmes paroles que je vous ai adressées lorsque vous êtes venu me trouver, sous prétexte de me livrer votre chef. » Cette fois, avec un calme qui révélait la volonté irréductible dont elle était animée, Jeanne d'Estenave répliquait « Inutile de chercher à m'effrayer ou à me corrompre. Je ne vous dirai rien. » Au comble de la fureur, Bourré d'Érigny, marchant sur elle point tendu, clamait d'une voix qu'il cherchait à rendre terrible « Nous saurons bien te faire parler quand nous devrions employer la torture !» complétait sinistrement l'exempt. « Oui, la torture !» appuyait le fermier général. « Allons, dis-nous où est Mandrin !»«
Cherchez-le !» répliquait Thiénot, en bravant audacieusement ses interlocuteurs. Le fermier général eut un cri de rage, et il allait s'élancer sur la prisonnière lorsqu'un gendarme apparut, poussant devant lui un gamin qui paraissait en proie à une vive frayeur.
« Allons, Clampino, raconte à ces messieurs ce que tu as vu !» ordonnait le gendarme en bousculant le petit paysan.
L'enfant poussa des cris perçants, mais l'exempt le saisit par la main, puis, tout en lui tapotant la joue,
« Ne pleure pas ainsi, » fit-il sur un ton d'hypocrite douceur. « Nous ne voulons pas te faire de mal. Au contraire, si tu nous apportes un renseignement utile, tu seras récompensé. »
Un peu rassuré, le petit bonhomme reprenait, en essuyant ses larmes avec la manche d'un vieux veston déchiré au coude.
« Voilà, mes bons messieurs, cette nuit, j'étais à la recherche d'un de nos moutons. » qui s'était égaré dans la campagne. Mon père m'avait dit que si je ne le retrouvais pas, il irait me perdre dans la forêt. Et j'étais en train de chercher si cette pauvre bête ne serait pas prise dans quelque roncier autour des ruines de Saint-Barnabé. Car il faut vous dire que des fois, nos moutons...
Oui, oui, on le sait,
coupait Pistolet.
Lorsque tout à coup, déclarait le gamin, je vis arriver au bas du raidillon qui monte aux ruines un carrosse avec plusieurs cavaliers qui avaient des fusils et des grands sabres. Vite, je me suis blotti derrière un buisson et j'ai vu un homme en descendre de la voiture avec une femme dans les bras, même qu'elle était tout habillée en blanc et qu'elle ne bougeait pas plus que si elle avait été défunte.
« C'est elle !» grinça d'Érigny.
« Alors ?» incitait Pistolet. « Eh mes bons messieurs, je ne peux pas vous en dire plus long, » affirmait le petit paysan, « car j'ai eu tellement peur que je me suis terré dans un cru comme un lapin, et quand au bout d'un moment je suis sorti de mon trou, j'ai vu des lumières briller dans les ruines du château. Alors j'ai détalé à toutes jambes, car sûr que ce monde-là, c'était des revenants ou des bandits. »
« Plus de doute, » concluait Bourré, « c'est bien Mandrin. »
Où ? « Et quand avez-vous trouvé cet enfant ?» demandait l'exempt au gendarme.
« Ce matin, derrière une meule de foin, à l'entrée du village de la Moraine. »«
Tout cela est fort clair, » concluait Pistolet. « Mandrin se sera bien gardé de repasser la frontière, qu'il s'est gardé par les gendarmes et les douaniers, et il se sera réfugié en attendant dans ces ruines où il a dû, depuis longtemps déjà, se ménager un repère. »«
C'est faux !»
s'écriait Thiénot, incapable de dominer l'émoi qui le bouleversait. Bourré et Trollon échangèrent un regard qui exprimait « Elle vient de se trahir ». Et l'exempt, d'un air triomphant, s'écriait
« Monsieur le fermier général, les renforts que j'ai envoyés chercher cette nuit à Grenoble viennent d'arriver.
Si vous y consentez, nous pouvons partir et surprendre Mandrin dans ses ruines avant qu'il ait réussi à franchir la frontière. »
« Oui, partons tout de suite !» déclarait d'Érigny.
« Et c'est moi qui conduirai l'attaque !»
Puis, lançant sa bourse au gamin, il fit
« Voilà de quoi acheter plusieurs moutons, jeune drôle !»
Et il s'élança au dehors. Alors, Pistolet, s'adressant au gendarme, lui recommanda, en lui désignant Thiénot, dont le cœur battait à se rompre,
« Je vous confie la garde de ce prisonnier !»
À la moindre tentative d'évasion de sa part, n'hésitez pas à lui brûler la cervelle. Et se tournant vers Thiénot, dont le désespoir se lisait sur les traits ulcérés, il railla.
Vous avez eu grand tort de ne point parler quand je pouvais encore vous sauver.
Ah, maintenant, il est trop tard, et vous rejoindrez bientôt votre ami Mandrin sur l'échafaud.
« Misérable !» s'écria Jeanne d'Estenave, pâle de fureur.
Et tandis que le policier s'éloignait, elle murmura. « Et c'est pour cette femme, cette Nicole, que Mandrin s'est perdu !» Puis elle ajouta. « Pour elle, rien que pour elle !» Et, à bout d'énergie, elle éclata en sanglots.